7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins, tous les jours, du lundi au vendredi, sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la culpabilité des mères. Travailler, élever ses enfants, les rendre heureux, les faire réussir à l'école. La barre n'a jamais été aussi haute pour les mamans. Souvent, d'ailleurs, elles s'avouent d'elles-mêmes trop stressées, trop aimantes, trop sévères, trop laxistes. Alors, les mères sont-elles vraiment coupables? Et si oui, de quoi? D'où vient ce sentiment de culpabilité, rarement partagé d'ailleurs avec les pères? Quelle est la part de la pression sociale? Nous allons en parler avec nos invités. Claudia Flis, psychanalyste et psychothérapeute, bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié « Toutes les mères sont folles ». Qu'est-ce qu'une mère normale? Un titre provocateur mais qui reflète la pensée de quelques-uns ou pas du tout?
Ben, oui, je pense. Moi, j'avais envie de mettre un peu les pieds dans le plat, c'est-à-dire qu'avec cette tyrannie de l'apparence, de la perfection de la mère, et qui la maternité résout tout et tout est facile, j'avais envie de dire que c'était une douleur jusqu'à la folie et que c'était pas si simple, que c'était déjà un grand choc psychique et un grand choc physique d'être mère, et que c'est le poids de la responsabilité avec tous les dictats sociaux, familiaux, etc.
On reviendra justement à ces dictats, voilà. Nadège Beauvois, vous êtes fondatrice de l'association Maman Blues, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est une association qui vit en aide aux jeunes mamans qui a presque 10 ans.
Ben, elle va fêter l'année prochaine ses 10 ans, voilà, avec beaucoup de joie, bien sûr, parce qu'on n'imaginait pas un tel parcours, surtout sur un sujet aussi tabou et difficile d'accès à la parole.
Ben, largement relayé quand même dans la presse aujourd'hui.
Aujourd'hui, oui.
On attend en tout cas de votre côté, les voisines, vos témoignages. Faites-nous part de vos interrogations. Aussi, vous nous dites souvent que vous attrapez l'émission en coup de vent, que vous avez beaucoup de choses à gérer entre la maison et le travail, et que vous n'avez pas le temps de téléphoner, contrairement aux hommes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a plus d'hommes qui nous appellent. Eh bien, faites une exception aujourd'hui. Exprimez-vous. Ne laissez pas les autres parler à votre place. Numéro de téléphone du standard, 33 1 84 22 71 71. Et bien sûr, les voisins, on n'exclut personne. Vos témoignages de pères nous intéressent aussi. Et enfin, d'émission, un tout autre sujet. Nous évoquerons avec la réalisatrice yéménite Khadija Al-Salami le mariage des petites filles pour son film Moi, Nojoum, 10 ans, divorcée, qui a été présenté à Bruxelles hier. Les mères françaises sont formidables. Aujourd'hui, on dit qu'elles sont aussi jolies que maternelles. Les Américains, d'ailleurs, écrivent des livres entiers sur le sujet. Et pourtant, trouver le témoignage d'une mère qui se sent coupable, je crois que c'est le job le plus simple pour un reporter à l'heure actuelle. Charlie Dupiot a rencontré Nathalie, la cinquantaine grisonnante, qui travaille dans l'industrie automobile en région parisienne. Ses enfants ne sont plus du tout en couche-culotte depuis longtemps. Et pourtant, tout son temps libre ou presque est consacré à ses deux filles, de 13 et 17 ans.
La culpabilité commence pratiquement dès le début. Même si on voit son enfant avancer et on a l'impression qu'il avance normalement, il s'émerveille de la bonne façon, il attrape les objets au bon moment, il suit le rythme entre guillemets normal, on se pose toujours un petit peu des questions en disant bah oui, mais si je l'avais un petit peu plus sollicité ou si j'avais un peu plus joué avec, est-ce que ça aurait été plus vite, un peu moins vite, est-ce qu'il aurait marché plus vite, est-ce que voilà, c'était tous ces moments-là. Et puis après, ben, j'ai fait quelques petits sacrifices, je pense, par rapport à des activités un peu personnelles, de me mettre à la découverte de la musique, par exemple. Bon, j'ai essayé, hein, mais à un moment donné, j'ai dit non, c'est mes enfants qui passeront d'abord, ça c'est clair. Quelles elles avaient besoin de moi, je suis pas sûre à 100%, c'est plus ce que moi je ressentais vis-à-vis de les laisser et de pas être avec elles non plus. Il y a peut-être des choses qu'on a ratées les week-ends, des sorties, ou de temps en temps le papa il dit c'est bien de prendre du temps aussi avec les copains, avec les amis et de faire des choses à l'extérieur.
Donc vous vous sentez beaucoup plus coupable de manière générale par rapport à vos filles que votre mari?
Il fait plein de choses avec elles, mais ce qu'il ne va pas faire, ça va pas le culpabiliser. Cette année, bon, avec la grande qui est dans le passage de son année de terminale, avec le bac, avec les orientations à prévoir, etc., on a passé que l'année pratiquement à s'occuper de la grande. Et c'est vrai que, ben, par exemple, j'ai de la culpabilité par rapport à la petite. Quand votre enfant, il vous dit, mais maman, moi aussi j'existe, là ça fait mal et il y a une mauvaise note qui arrive. Elle a peut-être demandé de l'aide et on l'a peut-être pas fait, on l'a peut-être pas aidée. Là, on aurait pu être une meilleure maman parce que quand elle est venue, on aurait pu s'occuper d'elle encore plus que ce qu'on a fait. On a passé 10 minutes avec elle, on aurait peut-être dû passer une demi-heure. Des moments éphémères où on se dit « Ah, là, on aurait pu être un petit peu mieux que ce qu'on a été ». La prochaine rentrée, ça sera même ma fille va aller en internat, la grande, hein, ne rentrera que le week-end. C'est ben est-ce qu'elle va réussir à se faire des amis, est-ce qu'elle va réussir à... Oui, je suis inquiète de comment va se passer l'année prochaine, quoi, où elle va être toute seule et elle n'a pas beaucoup d'amis. Elle est plutôt, c'est plutôt quelqu'un de renfermé. Là, je peux dire que je culpabilise à 100% parce que c'est mon caractère. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que elle soit plus libérée? Elle aurait peut-être dû faire du théâtre, elle a jamais voulu le faire, j'aurais peut-être dû la forcer à le faire. Voilà.
Jusqu'à quand vous vous sentirez coupable?
Tout le temps? Non, tout dépendra de l'avenir de mes filles, de comment elles évolueront, si elles sont heureuses ou pas heureuses, et tout ça, ben, soit je me dirais c'est à cause de moi, soit je me dirais c'est grâce à moi. On élève nos enfants, je veux dire, il y a une partie de c'est eux, mais il y a une grosse partie où c'est nous. On a obligatoirement une petite part de responsabilité là-dedans. Même si elle est toute petite et toute infime, elle est quand même là.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble, c'est votre vie au quotidien.
Sept milliards de voisins et la planète se barre.
À cause ou grâce à moi? Il semblerait que ça soit plutôt plus souvent à cause, hein, dans le témoignage des femmes. Non, comment vous réagissez toutes les deux, Nadège Beauvoir?
Eh bien, disons que oui, ce genre de témoignage, on peut s'y retrouver à 100% quasiment. Les mamans qui viennent sur, qui prennent contact avec l'association Maman Blues, sont dans un autre type de culpabilité. Là, j'entends cette maman qui s'interroge au quotidien sur ce qu'elle fait, elle ne fait pas. Au sein de notre association, nous, ce que nous recevons, c'est des mamans ou des futures mamans dont la maternité les plonge dans une culpabilité telle que elle menace de les effondrer. Alors c'est souvent plutôt en lien avec la relation, le lien mère-bébé. Mmh. Le sentiment d'avoir mis cet enfant au monde et l'attachement est plus ou moins aisé, ou le sentiment d'être responsable de tout ce qui lui arrive, c'est un sentiment qui va vraiment qui submerge complètement les mamans. Je dirais ensuite, lorsqu'il y a un travail, une prise en charge, un sentiment de l'ordre de la responsabilité. On parle de culpabilité, mais je dirais plutôt que les mamans...
Alors, Dieu merci, toutes les culpabilités n'ont pas besoin de prise en charge médicale. C'est pour ça qu'on en parle plutôt comme phénomène de société aujourd'hui dans notre émission, Nadège Beauvoir. Claudia Flis, comment vous ressentez le témoignage de cette mère qui, par ailleurs, ne va pas si mal?
Elle va pas si mal.
Comme la plupart des mamans.
J'entends que des projections. C'est-à-dire qu'elle aurait pu être mieux, elle aurait pu être meilleure, tout ce qu'elle a fait est parfait. Et en fait, elle pourrait juste faire confiance à sa fille aînée, qui s'adaptera, comme tous les enfants s'adaptent, elle a de bonnes bases. Et en fait, on sent cette angoisse, et si elle n'y arrivait pas, il n'y a aucune raison de projeter tout ça.
Les femmes en France ont le taux d'activité parmi les plus élevés d'Europe. Est-ce que finalement, c'est ça le prix à payer ou pas? Ou ça n'a pas de lien?
Le
taux d'activité, est-ce que ça vient du fait que les femmes travaillent, c'était la principale révolution de la fin du XXe siècle?
Oui, il y a un lien important, puisque il y a 50 ans, il n'y avait pas de problème, on élevait ses enfants et c'était glorieux. Et ça suffisait, alors qu'aujourd'hui la culpabilité s'amplifie parce qu'elles sont pas assez là, parce qu'elles font pas ce qu'il faut, parce qu'elles ont la peur au ventre tout le temps. Alors qu'il y a pas de raison.
Mais vous voyez des mères par exemple qui éprouvent ce même sentiment de culpabilité, y compris des mères qui ne travaillent pas ou pas?
Oui, aussi. Parce que elles sont frustrées souvent.
Oui, mais c'est pas la même chose, la frustration et la culpabilité.
La frustration amène de la culpabilité aussi, parce qu'elles sont pas heureuses dans leur situation. Donc, quand elles vont réagir avec les enfants d'une façon plus brutale ou autre, et donc, elles vont être coupables de pas être la mère parfaite qui rigole de tout, qui est joyeuse toute la journée, etc. Et c'est vrai qu'il y a un lien, parce que travailler, trouver du plaisir à travailler, les culpabilise beaucoup. Donc, le temps qu'elle passe au travail, elle suppose qu'elle pourrait le passer avec les enfants.
Ou si ce n'est du plaisir, en tout cas, une forme de réalisation personnelle.
Voilà. Mais oui, ça touche aussi à ça. Mais moi, je pense que il vaut mieux passer moins de temps avec un enfant et qu'il soit de qualité parce qu'on est épanoui, heureuse et qu'on est bien, plutôt que de passer des journées entières frustrées ou mal parce qu'on voudrait autre chose.
Nadège Beauvois, cette culpabilité des mères, elle touche tous les milieux, vous avez le sentiment ?
Tous les milieux, tous les profils, j'allais dire tous les âges, que ce soit le premier enfant ou le deuxième, troisième, on retrouve ce sentiment de ne jamais être à la hauteur chez toutes les personnes. Après, bon, selon il y a eu un travail fait sur soi, cette culpabilité va s'intégrer plus facilement dans le quotidien et les mères arrivent à prendre du recul. Mais il n'y a pas de profil. Nous sur au sein de l'association Maman Blues, il y a autant des mamans qui travaillent à l'extérieur, qui ne sont pas toutes d'ailleurs épanouies dans leur profession, comme des mamans qui restent à la maison, qui ont pris un congé parental et qui ensuite se posent la question de savoir s'il n'aurait pas été mieux de reprendre le travail. Je pense que ça fait...
Oui, parce que sur l'épanouissement au travail, il faut quand même préciser que les femmes aujourd'hui travaillent d'abord par nécessité financière et par nécessité d'être indépendante, parce qu'on ne sait pas ce que réserve la vie. Hein.
Absolument.
Donc, il n'y a pas forcément cette idée de « je prends un grand plaisir au travail ».
Bah, il y a souvent, c'est socialement un rythme de vie aussi, alors que élever un enfant seul chez soi, moi je trouve ça magnifique, mais c'est très ingrat. Il y a une espèce de reconnaissance sociale quand même quand on travaille, même si le travail est dur, il y a toute une vie autour.
Vous avez vu une évolution dans les mamans qui venaient vous voir, qui s'expriment aussi sur les forums, etc., à l'association Maman Blues en 10 ans, parce que l'association a près de 10 ans.
Oui, c'est-à-dire qu'au départ, c'était vraiment très presque honteux hein, de s'ouvrir comme ça sur un forum. Nous voyons de plus en plus donc de femmes qui trouvent facilement leurs mots, qui donne quand même des coups de pied hein, dans ce sentiment de culpabilité, dans cette obsession de la perfection qu'on attend de la part des mères. Moi, je trouve qu'elle s'insurge de plus en plus. Alors, il y a toujours ce sentiment de culpabilité, mais il me semble moins envahissant et elles s'en défendent un peu plus. Elles essaient justement de travailler pour que ce ne soit simplement que de la responsabilité à l'égard de leurs enfants. Chez nous, la culpabilité, c'est parce qu'il y a en plus un malaise par rapport à la relation mère-bébé ou par rapport à l'état de maternité. Mais je trouve qu'elle s'en ouvre de plus en plus. Ce qui, en revanche, fait défaut, c'est peut-être justement les prises en charge qui, elles, ne suivent pas cette évolution. Les femmes revendiquent de plus en plus le droit d'être écoutées. Le droit aussi de trouver des activités pour elles plus épanouissantes en dehors de simplement de l'activité professionnelle ou du fait d'être à la maison. Il y a vraiment une évolution, on le voit sur les blogs et tout, c'est dénoncé souvent de façon humoristique, mais voilà, on sent que c'est peut-être la culpabilité qui les pousse à s'en défendre, mais voilà, c'est dit aujourd'hui. Et on peut que s'en réjouir.
Vous connaissez le proverbe juif qui ne manque pas d'humour. Dieu ne pouvait pas être partout, alors il a créé la mer.
Oui, voilà. Je connais.
Vous pouvez nous appeler, les voisines, si vous souhaitez réagir sur la culpabilité des mères. 33 1 84 22 71 71. Sometimes it seems like you're just saying cause you're afraid that the silence reveals you much more. In your lives in a suitcase and running to another fake joy. While you're looking astray, Esther Rada chez 7 milliards de voisins sur RFI. Life happens. Nous parlons de la culpabilité des mères aujourd'hui. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Il suffit de feuilleter ou d'aller sur Internet tout simplement et de voir que la maternité des stars, par exemple, n'a jamais été aussi valorisée, je dirais, sur le plan marketing. Ça fait presque partie d'un plan de carrière. Les chanteuses, les comédiennes, etc. Des femmes qui réussissent, qui sont heureuses, qui sont épanouies grâce à la maternité. Qu'est-ce que ça vous inspire à toutes deux, d'ailleurs, Claudia Fliss, psychanalyste?
Je trouve que c'est une vitrine assez terrifiante, parce que c'est pas la réalité.
En même temps, c'est plus valorisant qu'autrefois, où justement, si les femmes réussissaient, il fallait qu'elles aient fait une croix sur le reste et sur leur vie personnelle.
C'est trop.
Pourquoi c'est trop?
Parce que c'est plus compliqué que ça d'être mère. On n'entre pas dans son jean taille 32 8 jours après.
Donc Facebook raconte des mensonges?
Non, parce qu'il y a des moyens. C'est sûrement des moyens d'arriver à ça, mais c'est pas représentatif de la société.
Ça fait du mal aux mères ou pas d'ailleurs?
Il n'y a pas de raison de douter du bonheur de ces femmes-là, mais on est beaucoup, oui, effectivement, dans l'affichage. Il faut que tout soit parfait, il faut que tout soit lisse. Et mais les femmes réagissent aussi par rapport à cette obligation de bonheur et de beauté. Il y a aussi des femmes qui se prennent en photo juste après un accouchement, qui montrent que la maternité, ça laisse des traces, ça traite sur le corps, sur les émotions. Et voilà, donc nous, au sein de l'association, on s'est amusé un petit peu à reprendre toutes les couvertures comme ça de magazines avec ces actrices.
Ah oui, pour justement commenter, mais... c'est ça. Ça fait du bien de commenter avec humour.
Pour prendre du recul, je vous dis, il s'agit pas. Bon, c'est vrai qu'autrefois les actrices ou ça ne montraient pas leur maternité. Donc voilà, on a avancé un petit peu, mais il faudrait pas non plus que ça contribue encore à renforcer.
C'est un effet boomerang finalement.
Oui, mais peut-être de moins en moins. Je vous dis vraiment, les femmes vraiment commencent à s'insurger contre ces images qu'on nous vend, parce que ce n'est pas la réalité dans la plupart des cas. Et puis bon, là, ça s'arrête au niveau des images. C'est du glamour qu'on nous vend, mais...
Claudia Fliss, vous diriez que finalement, la culpabilité des mères, elle a beaucoup démarré avec la maîtrise de la fécondité. À partir du moment où on a le droit de choisir quand on veut un enfant, c'est forcément un enfant désiré par une mère qui doit être parfaite.
Tout à fait. Vous avez raison. Ce n'est plus... Ça s'organise dans une vie, et donc l'âge en général compte aussi. On est plus insouciant à 20 ans quand on a un enfant et qu'on l'emmène partout et on se pose pas 50 millions de questions si on a eu une bonne relation avec sa mère et qu'il n'y a pas des choses importantes qui se rejouent, alors qu'aujourd'hui on les a beaucoup plus tardivement. Donc il y a effectivement il faut être parfaite, quoi. Et puis il y a le regard de la société qui appuie beaucoup là-dessus, et de la famille aussi.
De la société, de la famille et des hommes. On va en parler. On n'a pas encore parlé des hommes, on n'a pas encore parlé des pères. Restez avec nous toutes les deux, on va se retrouver juste après le flash. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous appeler, les voisines et les voisins, au 33 1 84 22 71 71. Le sujet du jour, c'est la culpabilité des mères.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins et de voisines, bien sûr. Nous parlons de la culpabilité des mères aujourd'hui. Pourquoi? Jusqu'à quand? Claudia Fliss, vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, et vous publiez « Toutes les mères sont folles, qu'est-ce qu'une mère normale ?» Nadège Beauvois, vous êtes fondatrice de l'association Maman Blues, une association qui vient en aide aux jeunes mamans. Et bien évidemment, vous pouvez nous appeler, les voisines et les voisins, au 33 1 84 22 71 71. Et puis en fin d'émission, nous évoquerons avec la réalisatrice Yemi Ménit Khadija Al-Salami, le mariage des petites filles pour son film. Un tout autre sujet. Le film s'appelle Moi, Nojoum, 10 ans, divorcé. Il vient d'être présenté à Bruxelles hier. C'est un phénomène qui concerne 15 millions de filles dans le monde. Je vous lis sur le sujet de la culpabilité des mères. Le message de Salimata qui a été posté de Côte d'Ivoire, qui est mère de deux enfants. Voici ce que nous dit Salimata. J'avais des relations difficiles avec mon premier garçon. J'avais peur d'échouer dans son éducation. Alors tout devait être réglo avec lui. Pas le droit de dérouter, sinon c'était la chicotte. La chicotte, c'est-à-dire la baguette, hein, les coups. Quand il a grandi, nos relations se sont dégradées. Mon fils avait très peur de m'approcher. Un jour, j'ai trouvé une note. Il disait ne pas aimer sa mère parce qu'elle était très méchante. Et j'ai réalisé que plutôt que de faire de lui mon ami, je l'avais au contraire éloigné de moi. J'essaie aujourd'hui de changer de méthode et les choses se remettent tout doucement en marche. C'est pas facile car pour moi la solution a toujours été la chicotte. Aujourd'hui je dois discuter, gronder, punir sans la chicotte. Ayant hérité d'une éducation sévère, nous dit Salimata, j'ai pensé que c'était la meilleure chose et que je n'aurais pas le droit de rater celle de mon fils. Je me trompais sur toute la ligne. C'est dur et émouvant ce témoignage.
Oui. C'est vrai, mais bon, elle est en train de réparer, donc c'est réparable. On peut recréer un lien avec son enfant, mais c'est vrai que la punition et une rigidité pareille est inutile.
C'est toujours le problème de ce besoin d'exigence et de perfection au niveau de l'enfant. Donc au niveau de l'éducation, on a tendance à reproduire ou prendre le contre-pied de ce que l'on a reçu. Et puis moi, je trouve que la démarche de cette maman est très courageuse, puisqu'elle se remet en cause. Et on retrouve ce besoin quand même de bien faire et d'être non pas parfaite, mais de réussir cette éducation. Mmh. Mais déjà, d'arrêter ces punitions, cette rigidité, c'est formidable. Ouais. Donc on peut que l'encourager.
Ouais. Grand courage et grande lucidité. Hein, tout même.
C'est difficile de se remettre en cause et
parce que on sent bien qu'elle aime son fils. Donc c'est d'autant plus dur de se rendre compte à quel point on a pu se tromper. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Nous accueillons une voisine qui nous appelle de Lomé au Togo. Bonjour Mariam.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes une mère de quatre enfants et vous vous sentez tout le temps coupable, avez-vous dit au standard. Pourquoi Mariam?
Oui, je me sens tout le temps coupable parce que je me dis que je n'arrive pas à satisfaire les quatre en même temps. Mmh. Et surtout la première avec laquelle je ne m'attends pas du tout, donc j'ai l'impression qu'elle est plus... défavorisée par rapport aux autres.
Vous parlez de l'aîné de vos enfants, hein, c'est bien ça, Mariam.
Pardon ?
Vous parlez de l'aîné de vos enfants.
L'aîné de mes enfants, oui, elle a 11 ans et demi.
Alors, ils ont quel âge, vos enfants là ? L'aîné a 11 ans et demi et les autres ?
Oui, 11 ans et demi, le second a bientôt 8 ans, et la troisième a bientôt 5 ans, et la dernière a 3 ans aujourd'hui.
Et comment se manifeste cette culpabilité chez vous ?
Je veux tellement que les choses soient bien faites. Mmh. Donc, j'ai toujours l'impression qu'elle n'arrive pas à me suivre, elle n'arrive pas à faire ce que je veux. Donc, à chaque fois, je suis, vraiment, c'est une forte pression, quoi. Je veux, surtout qu'elle est la première, je veux qu'elle donne l'exemple à ses frères, qu'il n'est vraiment pas de faute. Et par moments, je sens que j'en fais un peu trop.
Finalement, vous avez cette pression cette exigence et puis cette culpabilité, vous la reportez sur votre fille finalement.
Voilà, c'est ça exactement.
Claudia Fliss, que pensez-vous de l'histoire de Mariam qui est en ligne avec nous?
Je pense qu'il faudrait qu'elle puisse remettre en question son exigence. Par rapport à quoi? Où est le plafond? Ça serait quoi être parfait? Et parfait pourquoi? Et effectivement, l'aîné des enfants est toujours celui qui donne l'exemple, mais l'aîné des enfants porte lourd aussi, puisqu'il est le premier, il est celui qui a fait basculer le couple d'amants au couple de parents. Et ça, c'est pas innocent. Mmh. Et donc, peut-être qu'il y a des choses mêlées qu'il faudrait fouiller un petit peu.
Est-ce que vous élevez vos quatre enfants, Mariam, avec le papa?
Oui.
Que dit-il? Est-ce que vous lui parlez de cette culpabilité que vous ressentez?
Pas vraiment.
Et vous dit-il parfois qu'il vous trouve trop exigeante ou pas?
Oui, par moment, il me reproche cela par moment.
Donc finalement, il vous met la barre un peu moins haut que vous-même, vous ne la placez.
C'est ça.
Donc ça oui. pourrait finalement vous aider à diminuer un petit peu vos exigences. Vous avez l'air dubitative, Mariam.
Ouais, ça c'est vrai.
Vous ressentez une pression sociale avec les autres mamans, par exemple, une forme de compétition aussi, parfois?
Oui, quelquefois.
Alors, ça nous donne l'occasion, en tout cas, merci Mariam de nous avoir appelé pour nous parler de ce problème-là. Ça nous donne l'occasion peut-être d'essayer de comprendre cette culpabilité, elle vient d'où? D'où vient la pression? D'où viennent les exigences? Dans la famille, dans la société, des autres femmes elles-mêmes?
Il y a tout ça, puis il y a aussi le narcissisme. C'est-à-dire que je veux que mes enfants soient parfaits parce que ça va montrer aux autres aussi, et à ma famille et à la société, que j'ai bien réussi.
Donc l'exigence réussi. N'est pas une qualité à vos yeux, c'est un narcissisme?
Je pense que ça nourrit le narcissisme, oui. C'est un peu aussi à travers ce que vous disiez tout à l'heure sur les femmes, les actrices de cinéma, le glamour, etc. Ça aussi, c'est regarder comment j'arrive à tout gérer, à être belle et parfaite. Cette femme, effectivement, met la barre très haut. Mais pourquoi? A-t-elle tellement peu de confiance en elle que les enfants peuvent être un peu... un peu à côté ou un peu révolté et pouvoir l'assumer et que ça mette pas en question sa personnalité.
Alors effectivement, je pense que poids de la société, tout ce qu'on nous renvoie vient alimenter cette exigence, mais j'ai quand même le sentiment que quand on devient mère, comme quand on devient père, il y a vraiment une exigence personnelle, intime.
Quelle proportion alors la culpabilité vient
en fait,
de soi-même
et la culpabilité vient de l'extérieur. De devenir mère, c'est aussi avoir accès au fond de soi, c'est-à-dire on se découvre avec ses exigences, ses failles, ses vulnérabilités. Et je pense que des fois la rencontre avec cet enfant est vraiment bouleversante au point que on peut être entraîné dans une spirale d'exigence et de culpabilité.
Donc vous dites plutôt la culpabilité vient du plus profond des mères elles-mêmes.
En fait, c'est lorsqu'on s'engage en maternité, c'est un engagement total de sa personne. Là, je parle sur un plan psychologique, psychique, selon que cette rencontre avec cet enfant, cette découverte aussi de soi à travers cet enfant se passe plus ou moins bien, je pense que ça vient...
C'est ce que vous ressentez aussi dans les témoignages des femmes, sur les forums, à travers votre association, finalement, vous sentez que les femmes se sont racontées une histoire elles-mêmes et que c'est pas tant que cela l'entourage
Quand on devient mère, on s'attend à quelque chose, à découvrir quelque chose. Alors, bien sûr, on le fantasme, on l'imagine, je serai telle mère, je ferai comme si, je l'éduquerai comme cela, je vais le materner ainsi. Mais il y a autre chose qu'on pressent et qui peut se réaliser aussi en dehors de la maternité, d'ailleurs. C'est pas une... Cette espèce de réalisation de soi-même, ça peut passer à travers un enfant ou pas, mais j'ai le sentiment que la culpabilité que l'on ressent quasiment en permanence, même quand la maternité se passe plus bien, elle n'est pas que alimentée par la pression sociale. La pression sociale vient taper quelque chose.
Oui, je suis d'accord. Ouais. Je suis tout à fait d'accord et j'ajouterais que c'est aussi la relation qu'on a eue avec sa mère et avec son père. C'est vraiment l'intime de soi et qu'il y a énormément, quand on devient mère, énormément de faisceaux qui se rejouent, de choses qui étaient enfouies où on n'était absolument pas conscient. Et le fait de devenir mère, mais aussi sur le même plan que sa propre mère, c'est aussi régler quelque chose avec ses parents, puisque ça met presque d'égal à égal. Ou alors, si on reste très inféodé à sa mère, est-ce qu'on va arriver à être la mère aussi bonne qu'a été la sienne?
Alors, depuis le début de cette émission, on ne parle presque pas des hommes tout de même.
Ben, c'est vrai.
Les hommes des pères, la culpabilité des pères. Est-ce qu'elle est d'une autre nature?
Vous l'observez aussi, la culpabilité des pères?
Elle est d'une autre nature.
Oui.
Elle est d'une autre nature, beaucoup plus légère. Et
bon, j'ai fait ce que j'ai pu, c'est ça qui résumerait.
Plus de l'ordre du pratique, peut-être.
C'est de cet ordre-là, je fais ce que je peux. Oui. De toute façon, il n'a pas la même mission qui est définie. On ne lui demande pas de pallier à tout. Lui,
rapport... Il n'est pas devant le devant de la scène, voilà, tout à fait, plutôt derrière.
Il hésitera moins à prendre du temps pour lui, parce que ça lui est nécessaire et qu'il pourra le dire, il a besoin d'un équilibre. Mmh. Alors que la mère, très fréquemment, passe après tout. Elle va sacrifier énormément de loisirs. Ou des choses
mais,
qu'elle aimait.
Mais le père est quand même pris dans un faisceau d'exigences. Alors là, peut-être que le poids de la société, de ce qu'on attend d'un père, le père protecteur, le père qui veillera à ce que la maternité de sa femme soit pas trop fusionnelle, il a aussi plein de missions à remplir. Alors après, il peut s'en écarter plus ou moins. C'est-à-dire, nous, ce qu'on constate au sein de l'association, c'est que quand leur propre paternité se passe mal, quand leur propre couple, ça commence à avoir des petits tiraillements, se réfugient dans le travail. C'est mieux perçu par la société, un père qui se réfugie dans le travail, ou du moins fait tout pour sa famille. Donc, il y a une pression, mais il y a peut-être moins de jugement à son égard.
Mais aujourd'hui, Claudia Flis, vous me le disiez avant que nous ne démarrions l'émission, vous avez des femmes qui viennent vous voir, qui vous disent, bon, je me sépare avec mon conjoint, mais surtout je veux la garde alternée parce que je ne peux pas avoir mes enfants tout le temps. Donc, donc finalement...
C'est une parole qui a changé. Oui. C'est-à-dire que depuis, c'est quand même très récent, je dirais 5 ans à peu près, les femmes osent dire... j'en peux plus, c'est pas mon truc. Moi, passer du temps au parc, c'est odieux. Les Legos, j'en peux plus, ça m'intéresse pas. Alors que jamais, il y a 10 ans, c'était possible d'entendre des choses.
Ça veut pas dire qu'elles aiment pas leurs enfants.
Bah, en aucun cas. C'est simplement une question d'intérêt.
Oui, parce que finalement, quand on est extérieur, qu'on entend ça, on s'interroge.
Bah, ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est, je peux pas passer plus de temps, j'ai mes limites. Je l'aime, je l'aide à grandir, etc. Mais ça peut pas être ma priorité. Mmh. Et en fait, elles n'ont pas vraiment tort. Parce qu'en fait, l'enfant qu'on met comme priorité au sein du couple, et qui est vraiment le centre...
Priorité récente, hein, faut le rappeler, voilà, quand même, hein, dans l'histoire de la famille.
Exactement. Alors que s'il est en périphérie du couple, l'enfant, si on le laisse en périphérie, et qu'on continue à être une amante, une femme qui travaille, qui a des amis, qui fait du sport ou autre chose, et qui est épanouie, l'enfant arrivera beaucoup mieux à s'épanouir et il sera moins dans la culpabilité aussi. Parce qu'il faut aussi savoir que la culpabilité, elle commence très tôt.
Les conséquences de la culpabilité des mères sur les enfants, on est capable de savoir aujourd'hui ?
Oui, quand même, oui.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'ils vont le ressentir, hein, les enfants... ce mal-être de la mère, ils vont peut-être même pouvoir en jouer à un moment. Hein. C'est comme ça
que chez les bébés, hein, on voit aussi des bébés qui refusent de s'alimenter, qui sont dans le retrait, le repli, parce que la relation avec la mère est trop anxiogène.
Et ça n'arrange rien pour la culpabilité des mères.
C'est certain. Qu'est-ce qui fait du bien la culpabilité des mères aujourd'hui? Quelles sont les solutions? Comment on peut aider? Il y a de plus en plus de structures de ce qu'on appelle l'aide à la parentalité, d'ailleurs, surtout pour ne pas viser les mères.
Bah déjà, reconnaître cette culpabilité, reconnaître leur droit à la difficulté, leur droit à consacrer du temps en dehors de leur enfant. Simplement, déjà, les reconnaître pour celles qui en souffrent, hein, qui vont jusqu'à la souffrance, une écoute, il peut y avoir de l'aide aussi. C'est pas encore bon tout à fait à la hauteur de tous
des attentes des femmes elles-mêmes,
des attentes des femmes. Oui, mais rien que simplement reconnaître cette culpabilité, le poids que ça peut représenter, la venue d'un enfant, ça aide les mères. Nous on le voit, hein, simplement dire à une maman tu n'es pas seule à ressentir cela, tu as le droit de le ressentir et on est aussi tu as aussi le droit de bénéficier d'une écoute et d'un accompagnement, ça aide.
Vous voyez surtout des jeunes mamans, hein, dont les enfants ne sont pas encore réellement aux prises avec le système scolaire, parce que là aussi, il y a une forme de culpabilité scolaire qui est très prégnante en France. Hein. Est-ce que vous avez le sentiment, Claudia Flis, qu'avec cette pression scolaire, avec cette anxiété face à l'avenir qu'on retrouve aujourd'hui en Europe, par exemple, du coup, la culpabilité des mères s'est accrue?
Mais c'est certain, elles ont peur. Elles ont peur pour leurs enfants. Donc, si vous voulez, la façon de régler ça, c'est de faire confiance aux enfants. Les enfants vont s'adapter à cette société. Les mères donnent tout un bon départ aux enfants, une évolution, un développement intellectuel, etc. Il faut faire confiance aux enfants. Je crois qu'il faut vraiment lâcher prise sur des angoisses qui sont à une génération d'écart. Hein. Les enfants qu'ils élèvent aujourd'hui seront dans un monde qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Il évolue à toute vitesse. Et moi, je crois beaucoup en l'adaptation de l'enfant. Les paramètres seront différents, ils trouveront d'autres choses. Les métiers changeront.
Donc, la capacité naturelle de l'enfant à trouver sa place, finalement, c'est ça.
C'est la confiance et l'acceptation. Parce que rien ne sert de s'angoisser, de freiner, de retenir, etc. Il faut accepter et accepter que l'enfant trouvera sa place parce qu'on lui a donné des valeurs de vie et une structure. C'est ça l'éducation, c'est la mission parentale, c'est ça. Après, moi je crois beaucoup à l'adaptation et à ce monde qui change très vite. Et on le voit ces dernières années, ils sont nés avec d'autres choses.
Le digital remplacera la culpabilité des mères.
Voilà. Ben voilà une nouvelle formidable.
Oui, c'est vrai qu'il faut faire confiance à ses enfants. De toute façon, on ne peut pas avoir le contrôle de ce que sera le monde de demain. Donc, pour revenir à l'école, c'est vrai que l'école reprend, accentue cette culpabilisation des mères.
Via les enseignants, hein, notamment.
Les enseignants. Et puis, c'est vrai qu'actuellement, on se dit, peut-être que son enfant sera au chômage, ce sera... Ce qu'on nous renvoie actuellement d'un avenir possible pour les enfants, évidemment, tout ça vient de nouveau alimenter ce qu'on peut ressentir.
Donc. Merci à toutes les deux, en tout cas, d'être passées dans le studio de 7 milliards de voisins. Nadège Beauvois, vous êtes fondatrice de l'association Maman Blues. On peut vous retrouver sur le site internet. On va peut-être donner l'adresse du site internet.
Alors, www.maman-blues.fr.
Voilà. Claudia Fliss, vous avez publié Toutes les mères sont folles. Qu'est-ce qu'une mère normale aux éditions du Moment? Et tout est noté sur RFI.fr à la page des 7 milliards de voisins. Merci les voisines pour vos témoignages. Et puis dans quelques instants, nous allons donner la parole à la réalisatrice yéménite sur un tout autre sujet. Khadija Al-Salami a montré son film hier à Bruxelles, Le mariage des petites filles. Ça s'appelle Moi, Nojoum, 10 ans divorcée. Ça sera juste après Pharo. That I used to know. C'est Pharo chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous sommes en ligne maintenant avec Khadija Al-Salami, réalisatrice yéménite. Bonjour.
Bonjour.
Votre film sur le mariage des petites filles a été présenté hier à Bruxelles. Vous avez d'ailleurs par ailleurs gagné un prix à Dubaï. Votre film s'appelle Moi, Nojoum, 10 ans divorcée. C'est une fiction avec des comédiens, tournée au Yémen d'ailleurs, basée sur une histoire vraie.
Oui, oui, c'est basé sur une histoire vraie et c'est un sujet qui me touche au cœur de mon être. Mmh. Comme le jour de la vraie héroïne de ce film, j'ai vécu dans mes chairs cette expérience très douloureuse et a fait de ma vie un combat contre la condition des petites filles et des femmes dans la société traditionnelle. Donc, à travers ce film, je voudrais transmettre une vision vraie, forte et sans fausse note. Car, comme vous savez, un film peut atteindre 2 millions de gens instruits et non instruits. Et oui. Comme chez nous, il y a 70% des femmes analphabètes. C'est important que ces films projetés là-bas. Et aussi, l'image parle plus fort que les mots. Qui va sans doute sensibiliser les spectateurs pour prendre conscience que ce mariage des jeunes filles, c'est en effet un crime.
Pour le moment, votre film Khadija Al-Salami n'est pas montré au Yémen et pour cause. Hein, votre pays est en guerre depuis près de 3 mois. Vous-même, vous avez été mariée à 11 ans quand vous faisiez allusion à ces éléments autobiographiques du film Khadija Al-Salami.
Oui, malheureusement pour pas le projet Yémen, c'était programmé pour le mois de mars dernier, mais la guerre est éclatée au Yémen et on est désespéré. Maintenant, c'est la priorité pour les gens de survivre. C'est pas le combat pour les droits des femmes et malheureusement encore, ce sont les femmes la plus victimes, la plus dans cette guerre, sont plus avisées.
Vous avez tourné ce film avant le démarrage du conflit. Ça a été compliqué de tourner ce film, cette histoire-là précisément, pas seulement dans les villes, hein, puisque vous avez tourné dans des villages.
Exact. Oui, c'était un vrai cauchemar. Mais comme je voulais être filmé au Yémen, il y a des gens qui m'ont proposé de le faire au Maroc. Je dis non, c'est une histoire yéménite. Il faut que je le fasse au Yémen avec des acteurs yéménites. Et chez nous, il n'y a pas l'industrie du cinéma. Les gens ne savent pas qu'est-ce que c'est le cinéma. C'était vraiment un vrai cauchemar de le tourner là-bas. D'abord pour les sensibilités du sujet. Et en plus, je ne disais même pas à mes acteurs et actrices de quoi il s'agit. Je donnais seulement le texte. C'est vrai, je l'entraînais comment elles font
le texte
jouer.
De la scène sur le moment même, en fait.
Oui, sur le moment même, mais je l'entraînais quand même comment il faut jouer un mois avant, parce qu'ils ne savent pas comment jouer. Et finalement, ils sont dans des conditions très difficiles. Ils ont bien fait leur travail.
Comment
et
vous avez tourné la scène de la nuit de noces, qui s'appelle une scène de viol, tout simplement, avec...
J'ai laissé pour les dernières scènes que j'ai tournées au Yémen. Comme ça, si les gens me parlent, à la fin, c'est déjà tout filmé. J'ai commencé avec toutes les scènes extérieures et on n'y a rien qui se passe et les gens ne savent pas de quoi il s'agit. Mais on a eu plein de problèmes tout le jour. Logistique, il n'y avait pas d'électricité. Et puis, on a loué un générateur qui était kidnappé. Il faut négocier avec le kidnappeur. Et après qu'on a eu le générateur, ce qui nous a coûté en fortune, il fallait trouver le diesel. Et le diesel n'existait pas. Il faut trouver dans le marché noir. Il faut aussi négocier. Et finalement, on a pu filmer dans un village pendant 2 jours. Et après, les villageois nous a chassés et nous a forcé de faire tout ce qu'on a filmé. Donc, il faut trouver un autre village. Et quoi, lorsqu'on a trouvé un autre village, il y a quelqu'un qui est mort à cause de nous parce qu'il y a la lumière qui était éclairée dans le village. Et tout autour, ils sont sortis pour voir ce qui se passe. Et un homme qui montait son toit, il était impressionné par l'éclairage. Il tombait, on était obligé de payer le prix des sangs. Donc, tout le jour, il y avait un problème et c'était vraiment, vraiment le cauchemar. Et j'ai regretté beaucoup que j'avais pas un make-off parce que ça pourrait être un film surréaliste.
Khadija Al-Salami, ce phénomène du mariage des petites filles, évidemment, concerne beaucoup le Yémen. Le Yémen est l'un des pays les plus mal classés, d'ailleurs, dans les rapports sur l'égalité entre les sexes. Il devait y avoir une loi qui devait faire partie de la nouvelle constitution qui n'a pas été votée pour cause, puisque le conflit a éclaté, et qui devait protéger les filles du mariage avant 18 ans. Pour l'instant, c'est en suspens. Et puis, je voudrais aussi préciser, Khadija Al-Salami, que ce phénomène concerne 15 millions de filles dans le monde, et que ça a fait l'objet, d'ailleurs, d'une série de recommandations lors du sommet de l'Union africaine. africaine qui s'est achevée hier à Johannesburg. Khadija Al-Salami, on se retrouvera, j'espère, très prochainement. Pour l'instant, votre film n'est pas encore programmé dans les salles françaises, mais il va l'être sûrement très bientôt. Vous reviendrez nous en parler. Vous êtes la première femme réalisatrice et productrice au Yémen. Merci d'avoir été en ligne avec nous.
C'est moi. Merci pour m'avoir invité.
À très bientôt, Khadija Al-Salami. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons d'un tout autre sujet, la restauration en France, avec un livre coup de gueule d'un patron de bistrot qui dénonce en vrac les magouilles, le travail au noir, le manque de personnel qualifié et les arnaques aux clients. Ça nous concerne tous. De quoi se mettre en appétit. On se retrouve demain chez 7 milliards de voisins. Et bien évidemment, vous pouvez d'ici là réagir sur les réseaux sociaux, sur tous les sujets que nous diffusons. 7milliards@rfi.fr, c'est aussi notre adresse mail. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci les voisins.